端，没有终端。Sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission des chômeurs et des précaires.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des membres d'Attaque et des journalistes du PIAF. Et ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, vous pouvez nous appeler et pour poser des questions à notre invité au 01 40 05 06 10, 01 40 05 06 10. Alors ce soir, même si ce sont les vacances et que le soleil brille sur la capitale, nous allons parler de sujets sérieux. Et nous commençons avec un sujet très amusant, celui de PSA, Peugeot Citroën, qui s'apprête à fermer le site d'Aulnay. Ce qui est une bonne blague. Bonne blague parce que le patron de PSA met en avant comme raison de ces licenciements massifs le fait que le coût du travail est trop élevé. C'est très drôle quand année après année on voit les rémunérations outrancières des patrons du CAC 40, y compris donc celui de Peugeot qui est très très bien rémunéré. L'ouvrier, lui, coûte trop cher. Donc ce ne sont pas les fautes de gestion des PDG, ce ne sont pas les erreurs de stratégie des PDG qui créent les problèmes, c'est bien sûr l'ouvrier qui est responsable, c'est l'ouvrier qui est fautif, il coûte trop cher. Dans le même ordre d'idées, les Espagnols, avec Martino Rajoy, le nouveau Premier ministre ultralibéral que les Espagnols se sont malheureusement choisis aux dernières élections, eh bien l'histoire bégaye, se répète un peu. Les mineurs d'Oviedo et des Asturies en général sont en grève, une grève dure. On peut voir d'ailleurs des vidéos sur Internet qui sont très édifiantes, avec des mineurs qui envoient des fusées sur les forces de l'ordre, avec des bazookas improvisés, c'est très impressionnant. Et ces mineurs... au-delà de ce côté folklorique, font une marche sur Madrid pour interpeller les pouvoirs publics qui ont décidé, dans le cadre de l'austérité espagnole, de supprimer 63% donc des investissements et des aides à la mine espagnole, ce qui revient à signer l'arrêt de mort de la mine en Espagne. Donc ils se battent pour leur survie et avec de l'espoir que ce mouvement, qui est relayé par toutes les autres organisations syndicales, fasse basculer le pays dans une véritable révolte. Alors c'est bien. Les banques font les imbéciles, les gros spéculent, et ce sont les petits qui payent, en Espagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, et en France, c'est peut-être pour bientôt. Alors, dans la série, puisque nous sommes sur une question de temporalité, le temps est vraiment mauvais, et Boris va nous parler justement d'un temps qui court très vite pour les hommes politiques, celui des montres.
Voilà, moi je vais être un petit peu plus léger, hein. Je vais faire une petite revue de presse pour les actualités auxquelles vous avez peut-être échappé, pour de bonnes raisons, sûrement. Depuis un mois, on a vu quand même pas mal de votes et de déclarations publiques de haut vol qui ont un peu pollué la véritable information. Alors je vais donc remédier à ça en commençant par une histoire de montre. Raphaël Nadal, tennisman de son état, pendant le tournoi parisien de Roland-Garros, s'est fait voler sa montre estimée à 300 000 euros dans son hôtel parisien. Paraîtrait qu'il la soit fait prêter par son sponsor. Alors sur le coup, j'enquête. C'est quoi cette histoire de montre à 300 000 euros ? C'est quand même le prix d'une maison. Il faut avouer que j'y connais rien en montre. Et là, je me rappelle que Nicolas Sarkozy, ex-président de la République, avait planqué la sienne pendant qu'il serrait les mains de ses militants après son meeting Place de la Concorde à Paris le 15 avril.
Mais il y avait un noir.
Ah, il y avait un noir. Non. Et puis en plus, elle coûtait que 55 000 euros. Ce qui est quand même... rien par rapport aux 300 000 de l'autre. Alors, il paraît qu'elle aurait été offerte par son épouse, Carla Bruni, ex-mannequin et chanteuse, en janvier 2008. Et soudain, un souvenir, Julien Drey, le banni du DSKisme, fondateur de l'UNAFID, syndicat étudiant de gauche, et de SOS Racisme. Soupçonné de détournement de fonds, il serait lui aussi friand de montres. Alors, selon le canard enchaîné, ce collectionneur invétéré de montres aurait dépensé plus de 200 000 euros dans l'horlogerie en France, en Italie et en Suisse depuis 3 ans. Alors moi, J'aime pas trop les montres, je trouve ça moche et surtout inutile. Depuis qu'existent les téléphones portables...
Ouais, et puis t'es toujours en retard.
Ouais, c'est ça. Je suis pas le seul. Non, surtout depuis qu'existent les téléphones portables et les horodateurs. Et puis, demandez-leur, c'est un geste social. C'est le geste social le plus anodin, qui dans certains quartiers effraie plus que nommer de la communication. Enfin, ça me fait penser au lapin d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Mais du coup, j'ai réfléchi et je me suis plongé dans le Figaro Magazine et là, du coup, j'ai vu les pubs. Et soudain, je me suis souvenu de la phrase du publicitaire le plus bronzé de la planète, Jacques Séguéla. Invité en février 2009 à l'émission Les 4 Vérités sur France 2, à la question qui lui était posée sur l'imagiste ostentatoire du président bling bling Nicolas Sarkozy, est-elle une erreur de communication ? Réponse du tac au tac, c'est une erreur journalistique. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex ? Enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Alors moi, je laisse tous les quinquagénaires réfléchir deux secondes. Et moi, je m'en fous, j'ai pas encore 50 ans. Qu'est-ce que t'en dis, Jean-Marc ?
Rien. Sauf que time is money, et évidemment, ça va être le lien avec notre invité juste après la pause musicale, puisque nous recevons ce soir un invité un peu particulier dans cette émission. C'est pas trop notre habitude, mais nous recevons un patron qui va nous commenter l'actualité, et notamment ce que nous avons dit sur PSA tout à l'heure, ou sur l'affaire Sanofi qui licencie en faisant des milliards de bénéfices. Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres d'Attaque. Alors, nous allons passer à la partie interview de notre émission, avec ce soir l'interview de Florent Parigot, du Medvedev.
Bonjour Florent Parigot, merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord.
C'était un plaisir et je vous remercie de m'avoir invité. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, je n'ai pas de Rolex, moi je suis plutôt Breitling.
D'accord.
Oui, il faut remettre les pendules à l'heure. Alors, nous allons commencer par vous présenter aux auditeurs en dressant une rapide biographie. Alors, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine en 1964. Après de brillantes études secondaires à Sainte-Croix de Neuilly, vous intégrez HEC, puis Sciences Politiques et enfin l'ENA. Vous passez 7 ans au ministère des Finances où vous rencontrez Nicolas Sarkozy, puis Éric Woerth, dont vous devenez l'homme de confiance. Vous rencontrez Josiane Ventancourt, qui vous aide à monter votre entreprise de jeux en ligne. Vous créez et animez le think tank Liberté Chérie, dont le but est de promouvoir la libre entreprise. Vous êtes aujourd'hui l'un des membres influents du Medvedev, dont certains disent que vous pourriez bientôt prendre la tête.
En effet, oui.
Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur le coup de pouce au SMIC enclenché par le gouvernement ?
C'est une aberration. On voudrait saigner les entreprises qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Vous vous rendez compte de l'impact pour la compétitivité et la trésorerie de nos entreprises ? En plus, c'est stupide. Ça ne change rien pour les SMICards. 21 euros par mois, c'est à peine le prix d'un café aux Bouquettes. Par contre, ça coûte cher aux entreprises. Nous allons devoir licencier pour maintenir notre compétitivité. Et croyez bien que nous le regrettons.
Alors, dans le même ordre d'idée, Florian Parigot, la tranche d'impôt à 75%, quelle est votre réaction ? Vous la trouvez juste, confiscatoire ? Quelle est votre opinion ?
Écoutez, je crois que le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, on déteste les riches et qu'on voudrait les saigner à blanc. Alors, il faut rappeler quand même que ce sont les riches qui font tourner l'économie. Bref, pour répondre à votre question, c'est confiscatoire et inutile.
Mais pourquoi dites-vous que c'est inutile ? Est-ce que c'est pas juste un rééquilibrage par rapport à la politique fiscale du gouvernement précédent ?
Il n'y aura aucun rééquilibrage. Vous ne croyez tout de même pas que les riches vont se laisser tondre ? Nous avons tous, depuis longtemps, des pied-à-terre fiscaux en Suisse, en Belgique ou à Monaco. Nous sommes riches, mais pas idiots.
Mais cette position ne vous dérange-t-elle pas au niveau moral ? La solidarité entre les plus fortunés et les plus démunis ne vous semble-t-elle pas naturelle ?
Là, je vous arrête tout de suite. Il n'est pas question de morale, mais d'argent. Soyons sérieux. Bon, de toute façon, les études de mon cercle de réflexion le prouvent. Il ne sert à rien de distribuer de l'argent aux plus démunis. Parce que, il faut le savoir, les pauvres ne savent pas gérer. À la place de faire des placements intéressants qui leur donneraient du cash flow, qui dégageraient un business money, qui leur permettraient de développer un business plan, dans 97% des cas, les pauvres se ruinent pour acheter de la nourriture, tout bêtement. Et, entre nous soit dit, de mauvaise qualité. Ça n'a aucune efficience économique.
Quelle est alors votre position sur, la position de votre cercle de réflexion, hein, plutôt sur les prestations sociales ou les salaires ?
Alors, de façon objective, il faut dire que dans la situation difficile que connaissent les entreprises françaises aujourd'hui, il faudrait non pas diminuer, mais carrément supprimer les cotisations sociales des entreprises, diminuer les salaires d'au moins 20%, de manière à dégager les banking rights des entreprises et redonner confiance aux investisseurs.
Mais dans ce cas-là, que deviendront les ouvriers et les salariés qui seront envoyés dans des plans sociaux et donc supprimés du marché de l'emploi français ?
Ça, je dirais, c'est le problème de l'État. La philosophie d'un entrepreneur, c'est de gagner de l'argent et d'en faire gagner aux investisseurs, pas d'être des assistantes sociales. Il y a des gens pour ça, c'est leur métier.
Alors, si l'on prend l'exemple de Sanofi, nous avons donc là une entreprise qui dégage plus de 8 milliards de bénéfices, qui s'apprête à augmenter de 50% les dividendes versés aux actionnaires et licencier 2 à 4 000 salariés. Ça vous inspire quoi ?
C'est naturel. Il faut enrichir les riches pour faire tourner l'économie. Vous savez, les gens modestes, ils sont certes nombreux, mais dans notre système économique, ils ne servent pas à grand-chose. Leur seul rôle, c'est de consommer les produits que nous leur vendons.
Alors, dans un ordre d'idées voisin, est-ce qu'il faut, d'après vous et d'après votre cercle de réflexion, sanctionner les dirigeants d'entreprises qui mènent leur entreprise à la catastrophe ? On voit en effet depuis plusieurs années des dirigeants qui sont de mieux en mieux rémunérés, qui coulent leur entreprise et qui partent néanmoins avec des indemnités en millions d'euros. Ce qu'on appelle les parapluies, les chapeaux, etc. Ne faudrait-il pas,
ou les parachutes dorés.
Ne faudrait-il pas moraliser ces pratiques ?
Écoutez, cher monsieur, je crois qu'il faut se garder des simplifications outrancières et des trompe-l'œil qui sont trop véhiculés par une presse dont on ne dit pas assez qu'elle est complètement acquise aux idées bolcheviques. Un dirigeant est payé pour faire de l'argent pour les actionnaires. Et l'état visible d'une entreprise n'a rien à voir avec cela. Par ailleurs, une entreprise en mauvaise santé apparente peut obtenir des subventions, des allègements de charges, et peut même bloquer les salaires pendant plusieurs années, ce qui est bon pour les dividendes. Et si cela tournait mal, il reste encore la découpe et la revente à la découpe qui peuvent rapporter. Donc vous voyez, le manager mérite son salaire et ses indemnités. Il fait le job, il mérite parce qu'il fait le job, même si vous ne le voyez pas.
Alors, on a vu dans les manifestations ces derniers mois de plus en plus de slogans hostiles aux patrons et aux entreprises du CAC 40. Est-ce que vous comprenez cette colère ? Qu'avez-vous envie de répondre à tous ceux qui disent, excusez la vulgarité de l'expression sur cette radio, patron enculé et autres réflexions fleuries ?
Je voudrais leur dire la chose suivante, c'est qu'ils se trompent complètement. Ce qui est d'ailleurs fréquent chez les gens qui n'ont pas fait les bonnes études et qui ne fréquentent pas les bons cercles. S'ils réfléchissaient, ils comprendraient le ridicule de l'expression. Les patrons ne sont pas des enculés, puisque ce sont justement eux qui enculent les ouvriers. Donc il faudrait que les syndicalistes, plutôt que d'empêcher l'économie de tourner avec des grèves, des manifestations, aillent à l'école. Et alors ils feront la différence entre fucked, enculé, et fucker, enculeur. C'est ça qu'on apprend dans les séminaires de MBA à Columbia.
Alors, peut-être une petite question complémentaire. Dans votre biographie, je n'ai pas mentionné le fait que vous étiez chrétien et affilié donc à plusieurs œuvres caritatives chrétiennes.
Oui, c'est très important pour moi.
Et s'il n'y a pas une contradiction entre vos propos quand même assez cyniques et l'engagement chrétien ?
Pas du tout. Pour un entrepreneur comme moi, il y a ce qu'on appelle l'éthique de la responsabilité. Et faire de l'argent, c'est bon pour l'économie, donc c'est bon pour tout le monde, y compris les pauvres. Et par ailleurs, pour les pauvres gens qui n'auraient pas la chance de bénéficier de la richesse que nous créons, eh bien, nous avons dans mon entreprise une démarche de responsabilité sociale. Nous avons lancé une fondation qui aide les plus démunis à s'en sortir.
Les plus démunis, mais ceci étant, y a-t-il pas une contradiction ? Parce que vous fabriquez des démunis et de l'autre, vous dites que vous les aidez.
Je ne comprends pas très bien la contradiction. Je pense que je suis en parfaite cohérence avec mes convictions de chrétien engagé dans la société.
Est-ce que, Florent Parigot, aujourd'hui, vous êtes fier de votre parcours ?
Bien sûr, et je souhaite que l'État redonne à chaque Français la possibilité de prendre ses responsabilités, qu'on en finisse avec cette société d'assistés, et enfin, on libérera les énergies.
Ben écoutez, je crois que nos auditeurs ont été très édifiés par ce discours et on va vous poser une dernière question à laquelle nous n'attendons pas vraiment de réponse, mais est-ce que vous connaissez la Saint-Rémy ?
À vrai dire, non.
Eh bien, on va écouter justement la Saint-Rémy avec les Vampas qui nous parlent eux aussi de la pauvreté.
Ce soir, c'est la Saint-Rémy, on va aller chez Franprix, ça va encore être la fête toute la nuit.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, avec ce soir des membres d'Attaque et des journalistes du PIAF. Alors maintenant, après cette édifiante interview, Magali va vous parler donc d'un sujet également très sympathique, les impôts et l'austérité.
Oui, en commençant par la crise de la dette, puisque depuis quelque temps, on entend énormément parler de cette crise. On a droit à de nombreux débats sur la question, enfin débats entre guillemets, sur comment sortir de la crise de la dette. Alors, la dette, on en connaît pourtant tous à peu près les causes.
Il y a une règle quand même, un débat sur les médias dominants, c'est deux personnes qui sont d'accord et qui discutent ensemble.
Tout à fait. Et là, on en a eu des exemples assez époustouflants. Alors la dette, on connaît pourtant tous les causes de cette situation. La spéculation, le fait que les risques pris par les banques sur les marchés financiers peuvent impacter l'ensemble des opérations de crédit. Le fait que depuis 1973, en France en tout cas, l'État ne peut plus emprunter à taux zéro auprès de la Banque de France, mais est obligé d'emprunter sur les marchés financiers à des taux supérieurs et toujours croissants. Chose qui a été d'ailleurs entérinée par le traité de Lisbonne et qui s'applique à tous les États européens. Et face à cela, on se dit qu'il faudrait commencer évidemment par réguler les banques, en séparant les banques d'investissement et les banques de dépôt pour protéger le crédit des divagations de la spéculation financière. Qu'il faudrait ensuite réguler les activités spéculatives de ces mêmes banques et leur interdire les filiales offshore dans les paradis fiscaux. Et enfin, il faudrait permettre à la Banque Centrale Européenne de prêter directement à la place, de prêter directement aux États et d'en faire, du coup, le banquier des banquiers. Et puis, mettre en place un mécanisme de sanction en cas de manquement, pourquoi pas une nationalisation pour faute, sans indemnité, évidemment. Alors, par contre, on nous parle absolument pas de toutes ces solutions. Au lieu de ça, on nous parle plutôt des causes, des symptômes de la dette, c'est-à-dire l'endettement. Comment sortir de l'endettement ? Et même sur ces discussions-là, il y a seulement deux solutions qui sont explorées, ou plutôt une seule, qui est réduire les dépenses. Pourtant, on sait tous que la rigueur est une fausse piste. La politique de rigueur, c'est celle qui fragilise l'économie en freinant le pouvoir d'achat et les commandes publiques, donc le chômage augmente. Les rentrées fiscales diminuent, ce qui pèse encore plus sur les finances publiques. L'État économise sur les fonctionnaires d'un côté, mais il plombe ses comptes sociaux avec des chômeurs supplémentaires de l'autre. Et on sait qu'un fonctionnaire de catégorie subalterne ne revient pas plus cher qu'un chômeur. Donc chômage, récession, perte de confiance, finalement la consommation diminue, ce qui affaiblit encore plus l'économie, diminue les rentrées fiscales et ainsi de suite, le cercle infernal qu'on connaît bien. Alors, pour on nous propose donc ce communique solution de réduire les dépenses. Par contre, on ne nous parle pas d'une autre solution qui serait d'agir plutôt sur l'autre côté du problème, c'est-à-dire les recettes. Comment augmenter les recettes ? Le problème, c'est que dès qu'on parle d'augmentation d'impôts dans ce pays, les journalistes commencent à agiter le spectre du fisc vampire qui va bloquer l'économie, etc. On commence alors à comparer les taux d'imposition en France par rapport à d'autres pays, c'est un classique. Pourtant, ça n'a aucun sens, parce que si on parle uniquement de taux d'imposition et non pas d'assiette de l'impôt, donc de ce qui est compté, la base de l'impôt, dans ce cas-là, on ne compare rien de comparable. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on nous dit aussi régulièrement que notre système fiscal est très est particulièrement dévastateur, confiscatoire. Mais il faut aussi comparer l'ensemble du système fiscal. C'est-à-dire, il y a des pays qui taxent plus les revenus, d'autres qui taxent plus les entreprises, la valeur ajoutée, etc. Et puis, la vraie question qui se pose au final, c'est celle de l'usage de l'impôt. Est-ce qu'il vaut mieux payer un impôt moyen, mais devoir payer au prix fort les couvertures maladie, ses études, ne pas avoir de retraite et d'indemnité chômage, comme en Amérique du Nord ? Ou est-ce qu'on préfère payer un impôt relativement fort, mais qui pouvoir ensuite compter sur la solidarité nationale, la gratuité de l'école, et ainsi de suite ? Et puis, enfin, il ne faut pas oublier que l'impôt est un régulateur de l'économie. Hein, lorsque les entreprises n'investissent plus dans la recherche, l'équipement ou la masse salariale et se contentent de distribuer des dividendes, il n'y a plus guère que la fiscalité pour établir le bon fonctionnement de l'économie. Voilà, et puis on peut ajouter que ceux qui hurlent le plus fort à l'injustice et à la confiscation, en général, ce sont ceux qui grugent le plus le fisc. Donc soit de manière légale, avec les niches fiscales, soit illégale par le biais des évasions de capitaux. Et là, on boucle la boucle, puisqu'on revient sur la question des banquiers et des paradis fiscaux dont il faudrait s'occuper assez rapidement pour régler le problème.
Et on peut peut-être ajouter que aux États-Unis, qui sont pourtant l'un des berceaux de l'ultralibéralisme, pourtant la banque centrale est bien le banquier de l'État et non pas le banquier des banquiers. Donc c'est un petit peu un paradoxe que ce laboratoire de l'ultralibéralisme, comme l'Angleterre, l'autre laboratoire de l'ultralibéralisme, ait des banques centrales qui continuent à prêter à l'État, alors que dans le reste de l'Europe, l'État est pieds et poings liés entre les mains des banques privées et non pas entre les mains de la BCE.
On peut aussi parler de deux choses, donc l'évasion fiscale des sportifs qui a été à la mode au printemps, et on pourrait parler aussi du dumping fiscal au sein même de l'Europe, qui fait que les taux d'imposition sont tous différents et qu'il faudrait une unification fiscale afin que personne ne puisse bouger au sein de l'Europe.
Oui, toujours dans la sanction des banques, on a beaucoup parlé en 2008 des paradis fiscaux et des zones grises, noires, rouges et vertes.
Il n'y en a même plus de paradis fiscaux.
Voilà. Aujourd'hui, on se demande s'il y en a encore quand on voit les réunions internationales, et pourtant ils existent toujours, et ils existent même en plein Paris, puisque la plupart des grandes banques françaises ont des filiales offshore dans les paradis fiscaux, ce qui permet, sans même avoir besoin d'un homme de paille qui va avec une valise en Suisse ou au Liechtenstein, de placer son magot tranquillement dans un paradis fiscal et de passer hors impôt. Alors, oui, Boris ?
Non, rien, je voulais dire, oui, il y a beaucoup de paradis fiscaux en Europe, Jersey, la Suisse, le Luxembourg, et bon, j'en passe.
Voilà. La City.
Et alors, peut-être pour clore ce chapitre sur la beauté des banques et l'honnêteté du système, on a quand même un grand scandale qui est en train de se développer en Angleterre, qui est le scandale du Libor. Le Libor, c'est un taux, en fait, interbancaire de calcul des taux d'intérêt, qui sert de référence au calcul des taux d'intérêt qu'on va faire payer aux entreprises, aux particuliers, etc. Or, ce taux a été manipulé pendant des années par la Barclays, et on s'est rendu compte que derrière la Barclays, il y avait aussi la Banque Royale d'Écosse et une demi-douzaine d'autres banques britanniques qui avaient trempé dans la magouille. En manipulant les chiffres, ils se sont fait des milliards. Alors certes, le PDG de la Barclays a été démissionné d'office. Il part quand même avec 31 millions d'euros de retraite. Sympathique pour quelqu'un qui a commis des actes illégaux et pénaux. Les premières banques qui ont été prises les mains dans le pot de confiture payent 350 millions d'euros d'amende. mais aucune poursuite et aucun engagement de l'État anglais ou de l'Europe contre les banques. Alors qu'on commence à voir derrière ce scandale du Libor que non seulement les banques anglaises ont tripatouillé ce taux, mais sans doute avec la complicité de banques allemandes, de banques françaises, et le reste, on verra sans doute dans les semaines qui viennent le développement de cette affaire. Alors, à moins que nous ayons un coup de téléphone, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de réaction à l'interview de Florian Parigo, mais il n'est pas encore trop tard, il est toujours dans le studio. Nous allons passer à un autre sujet qui est celui de la Tunisie qui n'en finit pas de faire sa révolution dans la douleur, et parfois avec des choses qui sont difficiles à saisir depuis ce côté de la Méditerranée. Gaël.
Oui, en décembre 2011, nous avions interviewé deux militants tunisiens du Manifeste. C'est une association qui promeut les grandes lignes d'une constitution démocratique en parallèle avec les travaux de l'Assemblée constituante qui, elle, a été élue le 23 octobre 2011. Dans cette assemblée, le parti islamiste modéré Ennahda a remporté 41,5% des sièges, ce qui donne légitimement quelques inquiétudes aux militants laïcs sur le respect de la liberté de conscience dans la future constitution. Heureusement, il est un petit peu modéré par les partis plus à gauche et plus laïcs qui se sont alliés à lui. Jusqu'à présent, la constitution tunisienne, qui date de 1959 et qui n'avait pas été modifiée par Ben Ali, était très succincte sur la question religieuse. L'article 1 de la constitution indique simplement, je cite, « La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. L'islam est sa religion, sa langue l'arabe et son régime est la République. » Ça n'en faisait ni un État laïque, ni franchement un État religieux. La question s'est donc posée, au moment de la Révolution, de savoir ce qu'on allait faire de cet article dans la nouvelle Constitution. Un des militants du Manifeste qu'on avait interviewé est athée, ce qui est assez rare en Tunisie, mais vous allez voir dans l'interview que même lui ne remet pas nécessairement en cause cette référence religieuse dans la Constitution, compte tenu de l'importance de l'islam pour la population. Il propose une manière de parler de Dieu dans la Constitution qui respecte la liberté de conscience.
Le débat n'a pas été de dire est-ce que Dieu, on met Dieu dans la Constitution ou non. Hein. Même si là, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi. Tous les partis ont été d'accord à ce qu'on devait mettre Dieu dans la Constitution. Mais le débat a été de comment le mettre. Si on regarde à travers le... Il y a beaucoup de débats là-dessus, hein, énormément. Alors le début, pour replacer les choses dans leur contexte, il y a une partie des gens qui disaient on doit avoir une constitution totalement laïque.
C'est ce qu'est votre projet, puisque il n'y a
non,
pas
du tout.
Aucune...
Le projet n'est pas dans ce cadre-là.
Le projet parle de liberté individuelle, oui. De conscience.
Oui. Mais alors vous êtes plus longtemps que je finis ce que. Il y a une partie de la société civile, de la société civique, de la société tunisienne qui disait nous devons avoir une constitution totalement laïque, sans avoir aucune référence à Dieu. Il y a une autre partie qui est beaucoup plus importante qui souhaitait faire référence à Dieu. Alors nous, quand on l'a proposé, on n'était pas du tout. Ce débat-là n'avait pas encore commencé. Et on s'est dit, en fait, il faut. On pensait à juste titre que la population tunisienne était une population qui était croyante, qui était relativement traditionnaliste. Et donc, il n'y avait pas de... Les gens ne sont pas opposés, au point de vue religieux, ne sont pas opposés l'un par rapport à l'autre. Donc, il n'y avait aucune raison de l'enlever et de créer une... Il n'y avait pas une demande de la population tunisienne d'enlever Dieu de la Constitution. Alors, mais par contre, comment le mettre ? C'est là la truc. Et alors notre idée à nous, c'est de ramener Dieu à la croyance de l'individu, non pas une croyance de l'État. Et à partir du moment là où, et c'est là où, dans ce texte-là, on fait, à part ce texte-là qui dit Dieu, tout Tunisien, je ne sais plus comment la formulation, quelle formulation on a mise, d'accord ? Qui dit finalement Dieu est un problème individuel et non Dieu était uniquement un problème individuel. C'est déjà une très grande avancée. Hein. Ensuite, tu as tous les autres articles qui sont plutôt laïques, des libertés individuelles, de liberté, etc. Qui permettent à l'individu de croire ou de ne pas croire, ou de croire en une pierre, une maison ou bien à sa voiture. Ça gêne en rien. Et il y a cette discussion de dire la religion est un, de spécifier dans la Constitution que Dieu est une affaire personnelle, et a fait son chemin.
Alors je ne sais pas si l'idée a fait son chemin jusqu'au bout, mais en tout cas, à la fin mars, le comité dirigeant d'Ennahda, le parti islamiste, a finalement décidé de ne pas imposer de référence à la charia et de garder tel quel l'article 1 de la Constitution. Et le leader du parti islamiste, Rached Ranouchi, le justifie en disant « Nous ne voulons pas ajouter d'éléments qui divisent la société. Si les Tunisiens sont d'accord sur la place de l'islam dans l'État, cela suffit. » Mais si les choses semblent apaisées au niveau constitutionnel, elles le sont un peu moins sur le terrain social, même nettement moins. Les salafistes font parler d'eux avec des attaques contre la chaîne de télévision Nesma TV, qui avait diffusé le film Persepolis. Et récemment, on a vu l'émeute de salafistes contre le Printemps des Arts à Carthage. Et derrière le discours de fermeté du gouvernement face à ces bandits, la police est étrangement molle et les autorités ont tendance à renvoyer dos à dos les salafistes et les artistes. C'est-à-dire que Ennahda finalement se pose comme un centre raisonnable qui arbitrerait entre d'un côté les extrémistes de la religion et de l'autre les extrémistes de la liberté de mœurs. Par exemple, le directeur de Nesma TV, qui avait diffusé Persepolis, a été condamné à 1200 euros d'amende pour, je cite, « la diffusion d'un film troublant l'ordre public et portant atteinte aux bonnes mœurs ». Finalement, aujourd'hui, cette constitution, qui a suscité beaucoup de débats, c'est un sujet important, notamment pour les bases légales sur lesquelles les laïcs pourront s'appuyer, mais le combat doit se mener aussi dans la société. Plus les Tunisiens céderont aux intimidations des ultra-religieux, plus ces derniers feront la loi.
Alors, donc, à suivre tout au long de cette année qui s'avère donc compliquée pour la Tunisie, compliquée aussi du côté de l'Égypte, avec juste une petite ouverture en Libye, avec des résultats électoraux qui sont intéressants, puisque de tous les pays du printemps arabe, la Libye, assez curieusement, est le seul qui n'ait pas donné une majorité à des islamistes, fût-il modéré, mais à des libéraux apparemment pas trop religieux. Donc, à suivre également. Alors, puisqu'on parle de la Tunisie, de la Libye, on va continuer, on va partir sur l'Égypte et on peut conseiller à tous les auditeurs de se précipiter voir un film qui s'appelle Les femmes du bus 678, qui est un film égyptien du réalisateur Mohamed Diab. Ce film parle de la condition féminine, bien sûr, puisqu'il s'agit du harcèlement sexuel que subissent les femmes au Caire et dans toute l'Égypte, et du combat de trois figures féminines de milieux différents qui vont se retrouver confrontées à différentes formes de ce harcèlement sexuel et comment elles vont réagir de manière donc radicale et intelligente. Alors ce film est porteur d'espoir, mais il montre bien les contradictions d'une société, une société donc musulmane qui vit à plusieurs époques en même temps et qui n'arrête pas de se dépatouiller entre ses traditions, la misère du plus grand nombre, la richesse éhontée d'une élite, ce qui fait le lit des islamistes. Alors pour conclure tout ça, on a trouvé un autre titre des ventes basses qui vont nous parler de Dieu et qui vont nous prouver que Dieu existe. Fréquence Paris Pluriel, 106.3, émission mode d'emploi, l'émission des chômeurs des précaires, ce soir avec des militants d'attaque et des journalistes du PIAF. Alors, nous allons nous écarter un petit peu du printemps arabe et pourtant nous allons y revenir par la petite porte en allant en Asie, l'Asie musulmane, avec les excités de l'UMP qui pourtant n'aiment pas trop les Arabes et n'aiment pas trop les musulmans, mais quand il faut, ils savent les aimer. Magali.
Oui, puisque les élections législatives nous auront permis de débarrasser l'Assemblée de quelques têtes de la droite populaire, mais il y en a quand même qui ont réussi à trouver un refuge dans une zone particulière, qui est la zone Asie, et je pense notamment à Thierry Mariani, qui est aujourd'hui député de cette immense circonscription, une des plus vastes, avec 49 pays, dont la Russie et les pays d'Asie et d'Océanie. Sa zone de prédilection à Thierry Mariani, c'est plutôt la Russie et l'Asie centrale, et en particulier un pays qui s'appelle le Kazakhstan, qui est un pays très très riche en uranium et en pétrole, qui est dirigée d'une main de fer par un autocrate qui s'appelle Nazarbayev. Et Mariani a été quand même président du groupe d'amitié France-Kazakhstan à l'Assemblée de 2006 à 2009. Et il a lié pas mal d'amitié avec des dirigeants de ce pays-là et puis d'autres aux alentours. Et pour ça, et pour au bénéfice des entreprises françaises, EADS, Total, Suez, Alstom, etc. En gros, il exerce dans cette région les fonctions de lobbyiste en chef pour les grands groupes.
Pas mal, pas mal. Donc la règle, c'est un musulman, ça sent pas bon, mais s'il sent le pétrole, ça sent meilleur.
Exactement.
C'est ça. On pourrait envoyer le slogan à l'UMP pour les prochaines élections. Je pense que ça leur plaira beaucoup. Alors avant de passer à l'agenda, quelques petites réflexions sur la droite populaire, peut-être, Magali ? Parce qu'il y a Mariani, mais tu nous as dit qu'il y avait des têtes qui étaient tombées. On pourrait peut-être se faire plaisir. Non ? Non, on va pas être sadique. Bon, d'accord, c'est les vacances, on va être gentil. Alors, on va passer donc à l'agenda avec Boris.
Non, Gaël. Donc, premier rendez-vous, c'est la cinquième édition de l'Alter Village, organisée par Attaque France, du vendredi 20 au vendredi 27 juillet, au centre d'ailleurs, à Saint-Jean-des-Aulières, dans le Puy-de-Dôme.
Alors voilà, comme depuis quelques 2 ou 3 ans, est organisé un Alter Sourd, hein, donc un Tour de France à vélo qui fait face au Tour de France. Et voilà, et donc le titre c'est « Une autre fin est possible », donc c'est du 18 juillet au 19 août, et ils vont à la rencontre de tout un tas de personnes dans le sud de la France, et voilà, donc vous pouvez regarder sur leur site www.altertour.net.
Alors ensuite, le festival Emmaüs, Forum mondial de la pauvreté. Je trouve que le titre est pas très heureux, ça fait un peu bizarre, mais bon, festival mondial de la pauvreté en partenariat avec Paul Ariès et le Sarcophage, village associatif, animation de rue, concert. Tout cela se passe du 24 au 26 juillet. Donc à Lescar, communauté Emmaüs Lescarpeau, chemin Salier, 64 230 Lescar. Et vous avez même, pour avoir des précisions, notamment pour l'accès, un site internet http://www.emmaüs-lescar-pau.com.
Et puis si vous êtes dans le coin, précipitez-vous au festival de jolis mômes La Belle Rouge à Saint-Amand-Roche-Savine dans le Puy-de-Dôme du 27 au 29 juillet, puisque depuis 17 ans, la compagnie s'invite dans ce petit village où en couleur et en culture pour du théâtre, du cinéma, de la chanson, des ateliers politiques, des concerts, des rencontres, de la fraternité surtout. Voilà.
Dans le Gers, un éco-festival Eco-Zenco, un festival avec des arts et de l'écologie, des pratiques écologiques, des spectacles, la musique, un vide-grenier. C'est du 15 au 19 août, un festival à taille humaine, participatif et libre. C'est au Moulin de Milan, au lieu-dit de la gare, à Milan bien sûr.
Alors si vous êtes dans les Landes, pour le coup, vous pouvez aller à Uzest, et cette année, donc c'est pas qu'à Uzest, hein, c'est le festival Uzest musical, les Estejas de las Artes, je le dis pas bien, mais... Donc cette année, c'est sur les communes de Uzest, Mazère, Pompéjac, Lignan, Bazas, Noyan et Casalis. Donc avec tout un tas d'invités, entre autres Archichip, Martial Solal, Jean-Louis... Chautan, Louis Clavis, François Canteloup, André Mainviel, Marc Perron, Beignat, Archera, etc. Donc vous pouvez regarder sur leur site, c'est le site de la compagnie Lubat, www.compagnielubat.org.
Et puis comme c'est dans les Landes, vous aurez peut-être la chance de voir Juppé ou Michèle Alliot-Marie, comme elle a été battue aussi, et que Juppé n'a pas eu le courage de se présenter aux législatives, ils ont du temps. Alors, autrement, 7e festive, rencontre des objecteurs de croissance, jeudi 23 août, centre culturel de Rossignol, Tintigny, 1 rue Camille-José à Rossignol, 6730, c'est en Belgique, donc avec là aussi un site pour les renseignements, www.les-oc.info. Alors avant de clore cette émission, il nous faut vous rappeler que ce sont les vacances, du moins pour ceux qui ont la chance d'en avoir, Et donc pendant les vacances, FPP tourne un petit peu différemment. Vous avez des rediffusions des émissions de l'année, ce qui vous permet de vous rattraper si vous avez honteusement loupé certaines émissions. Donc jusqu'au mois de juillet, vous pouvez les écouter au mois de juillet-août pour vous rattraper et pouvoir passer l'interro de rentrée. Ensuite, vous pouvez aller sur le site de FPP pour trouver les podcasts des émissions. Et pour finir, nous nous retrouverons en direct le 7 septembre.
Et puis on continuera de façon les en plus après la rentrée avec des invités surprises. Donc après Florian Parigot, nous aurons le responsable de la Ligue homophobe. Puis on avait prévu d'inviter quelqu'un du Front National en octobre.
Non, là on va se faire virer. Hein.
Non, je crois que c'était le représentant de la Ligue du Sud, non, de la Ligue du Nord à Paris, voilà.
Bon, allez, tout ça pour dire, avant de vraiment fermer l'émission, que bien sûr, notre invité était un invité bidon. On n'aurait jamais invité un affreux patron comme cela. Mais le problème, c'est qu'on est tellement dans une société de l'horreur économique que même une grosse bouffonnerie peut passer pour vrai. Alors, le morceau que nous venons d'entendre, c'était Diana Krall, et le morceau s'appelle Black Crown.
Dis-moi, Jean-Marc, quel est ce journal que tu es en train de lire ?
Le journal que je suis en train de lire s'appelle Le Piaf, ce qui veut dire pour une information alternative forcément, et on peut le trouver sur www.le-piaf.org. Et ce mois-ci, il y a plein de bonnes choses à lire.
Oh, ça a l'air drôlement intéressant.
Alors, par exemple, ce mois-ci, nous avons un article sur le changement. Rompt-il avec la rupture ? Est-ce que François Hollande est une vraie rupture par rapport à l'ère Sarkozy ? Autrement, nous avons un article, Hôtel du libre-échange, qui parle des accords mafieux des libre-échangistes. Ou encore un article sur la cyberguerre, la guerre électronique que livrent Israël et les États-Unis. Ou une interview de Bernard Tepper sur la santé, les réformes à mener pour combler le déficit sans pour autant réduire les soins à l'hôpital et dans la santé publique.
J'ai drôlement hâte de lire ce journal. Je vais aller de ce pas regarder sur www.le-piaf.org.
Ah oui, mais j'ai pas tout dit. Il y a aussi des articles très importants sur la dette, sur le taux d'usure pour les prêts aux acteurs publics locaux qui expliquent pourquoi toutes les collectivités sont en train de virer au rouge dans leurs comptes.
Oh, voilà. Et puis, les dessins sont vraiment très rigolos.
Ah oui, parce qu'en plus, on a un super dessinateur. Et on parle d'écologie même dans ce numéro. Allez, bonnes vacances après cette fin un petit peu délirante. Ce n'est pas notre habitude, mais on nous pardonnera.